Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine en ce 26 juin 2018. Aujourd'hui, c'est Jean-Charles Algan qui vous parle et notre grande équipe ce matin est composée de Jean-Sébastien Laliberté. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Jean-Charles.
Notre chef d'orchestre de l'émission pour la technique, le choix musical et pas mal de choses. Qu'allons-nous lire ce matin lors de cette émission? Eh bien, je vais vous d'un article. Si on regardait Montréal avec les yeux d'un touriste, moi je suis très voyage en général. Ensuite, peut-être des projets ambitieux pour l'île d'Anticosti et les Québécois en vacances. Où iront les Québécois cet été? Donc, à tout à l'heure. Alexandre Sirois de La Presse titrait son article « Et si on regardait Montréal avec les yeux d'un touriste ?» Formidable Montréal, c'est ce que semble penser l'écrivaine américaine Frances Prose. Elle vient de publier dans le New York Times un article élogieux sur la métropole. Un long texte de plus de 2000 mots où elle raconte son séjour à Montréal en tant que touriste. Elle y était au printemps dernier avec sa famille, elle a été charmée et le mot est faible. Montréal est un peu comme une ville européenne, sophistiquée, cosmopolite, plurilingue, a-t-elle écrit, énumérant dans son article bon nombre des mérites de la ville. Du français qu'on y parle à sa diversité ethnique, en passant par son look et le fait qu'il fait bon y marcher. Elle a même chanté les louanges de plusieurs quartiers de la ville, le Vieux Montréal par exemple, où vous avez l'impression de vous déplacer à travers les siècles d'histoire. Ou le centre-ville, moderne, effervescent, dynamique. Elle prend aussi soin de préciser à quel point elle a été frappée par la gentillesse des Montréalais. Bien franchement, quand prend-on le temps ici de se pâmer devant Montréal avec autant d'enthousiasme? Quand prend-on le temps de se dire que Montréal est incontestablement une des grandes villes les plus attachantes en Amérique du Nord? Les cônes oranges nous démangent, nous donnent des boutons, avec raison. Les nids de poules et les bouchons nous exaspèrent. Et Dieu merci, l'hiver est terminé, sinon les ratés du déneigement feraient encore la manchette. Les défauts de la ville nous sautent aux yeux, surtout si on y habite. Ses qualités, elles, on peut facilement ne plus les remarquer, surtout, là encore, si on y habite. Écoutez ce que ceux qui visitent notre ville en disent est loin d'être une mauvaise idée. Ça nous permet d'atteindre un sain équilibre entre notre vision et la leur. En plus, ça remonte le moral. On a fait le test récemment. Le maire de Bonn, en Allemagne, était de passage dans la métropole pour le congrès des gouvernements locaux pour le développement durable. On en a profité pour lui demander son avis sur Montréal. Les Montréalais ont de quoi être fiers de leur ville. Elle est belle, elle est propre, l'air est pur. Il y a de très bonnes infrastructures et une ville culturelle incroyable, nous a dit ce maire de Bonn à la toute fin de son séjour. Il n'en revenait pas non plus de voir autant de gens en santé. Il a été surpris par le nombre de Montréalais qui joguaient sur le Mont-Royal et par le nombre de cyclistes dans les rues. Et il a fait, tout comme Francine Prose, l'éloge de la gastronomie montréalaise. Notre ville se révèle charmante, chaleureuse et invitante lorsqu'on la regarde avec les yeux d'un touriste. Encore plus qu'auparavant, d'ailleurs, Tourisme Montréal le confirme, notant à quel point la ville se retrouve depuis quelques années au sommet d'un grand nombre de palmarès mondiaux. Meilleure destination voyage 2017, selon un classement, meilleure ville étudiante au monde, selon un autre. Il y a eu près d'une vingtaine de mentions de ce genre uniquement l'an dernier, selon une compilation faite par l'organisme montréalais. Ça fait du bien de savoir toutes les bonnes choses qu'on pense de la métropole à l'extérieur de nos frontières. Des projets ambitieux pour l'île d'Anticosti. C'est un texte de Laurence Royer avec des informations d'Alix-Anne Turcotti pour Radio-Canada Nouvelle. Depuis que Québec a officiellement mis fin, il y a un an, à toute possibilité de travaux de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures sur l'île d'Anticosti, les dirigeants de l'île voient grand. Ils se sont dotés d'un plan stratégique d'une quarantaine de projets au coût total de 90 millions de dollars. L'objectif des 42 projets soigneusement sélectionnés est de préparer l'avenir de l'île. Selon le maire de l'île d'Anticosti, John Pinault, ce plan n'est pas trop ambitieux pour le village de Port-Meunier, qui compte 200 habitants dans les périodes les plus achalandées. Ce n'est pas la mer à boire quand tu penses que débarrasser les pétrolières ici, ça a coûté 94 millions de dollars, mais ça va être fait petit à petit. John Pinault nous disait ça. La mise à niveau des installations d'eau potable et du système de traitement des eaux usées dans la municipalité fait partie des priorités identifiées. Il s'agit d'un service essentiel pour attirer de nouveaux habitants, selon le maire. Selon le directeur général de la municipalité, Frédéric Lee, le projet est évalué à 4 millions de dollars. La municipalité est en avis d'ébullition depuis maintenant 7 ans, dit-il. On aimerait que les choses aillent beaucoup plus vite. La municipalité espère que Québec financera plus que les trois quarts du projet. Maintenant que les habitants de l'île Anticosti misent sur le développement du tourisme de niche, grâce entre autres à une reconnaissance au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais pour parvenir à développer le tourisme, il faudra d'abord faciliter l'accès à l'île, selon John Pinault. Avant tout, je pense qu'il y a le lien inter-rive. Il faut que les gens soient capables de venir à Anticosti, à moindre coût. Des citoyens d'Anticosti ont confiance en ce nouvel avenir. C'est notamment le cas de Nick Malouin, qui croit que la situation économique de l'île se porte de mieux en mieux. Nick Malouin, résident de l'île d'Anticosti, dit « Ça faisait des années qu'on était sur un ralentissement. J'ai l'impression que là, ça repart. » Pour sa part, Mireille Malouin, résidente de Lille, se réjouit que les citoyens soient impliqués dans ce processus. Ça implique aussi les gens dans un processus de développement, affirme-t-elle. Donc, je vois un avenir quand même, un avenir intéressant face au projet de l'UNESCO. Les défis qui attendent l'île d'Anticosti au cours des prochaines années sont nombreux. La municipalité promet de garder les pieds sur terre et d'y aller un pas à la fois.
Amsterdam, qui s'est chargé du glaçage. Et je reviens à Montréal, le corps tatoué de visage. Des anges dandy aux danses plumage ont mis en lumière mon passage. Le soleil inonde le terminal, le top fait danser mes scandales en format original. Yeah.
On aurait reconnu Ariane Moffat et la pièce Montréal tirée de son album de 2005, Le cœur dans la tête.
Les Québécois en vacances. Où iront les Québécois cet été s'ils ne reviennent pas à Montréal? Resteront-ils au Québec? Et si oui, pour y faire quoi? Marcher dans un parc national? Pêcher dans une pourvoirie? Voyager dans le temps en visitant un lieu historique national? Nous avons épluché plusieurs sondages et analysé leurs habitudes passées pour trouver des réponses. C'est un dossier de Stéphanie Morin et de Violaine Balivi dans la presse. Le Québec, vedette de l'été des Québécois. Dans quelques heures ou quelques jours, des milliers de Québécois prendront la route des vacances pour un repos bien mérité. Où iront-ils ? Oublier l'Australie, le Portugal ou la France, la destination la plus populaire sera encore une fois la belle province. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par Tourisme Québec qui révèle que 70% des Québécois ont l'intention de faire au moins un voyage au Québec cet été. Pourquoi ? D'abord et avant tout pour profiter de la beauté des paysages et des grands espaces. Logiquement, la Gaspésie, les cantons de l'Est et Charlevoix figurent donc au sommet des destinations les plus populaires, juste derrière l'indétrônable ville de Québec. Montréal accuse un recul, passant de la 3e à la 5e place dans les intentions des voyageurs, mais il faut dire que la métropole avait été particulièrement populaire l'an dernier grâce aux festivités entourant le 375e anniversaire de sa fondation. Et puis, elle peut se consoler en étant de plus en plus estimée des touristes de la Nouvelle-Angleterre, qui sont d'ailleurs deux fois plus nombreux, 40%, à vouloir passer leurs vacances au Québec, à vouloir passer leurs vacances au Québec, 40% de plus qu'en 2017, c'est ce qu'il disait. Les Américains sont attirés à la fois par la nature, la gastronomie et l'image favorable qu'ils ont des Québécois. Ils sont de plus en plus rares, 17% contre 27% l'an dernier, à craindre des difficultés liées à l'usage du français. Et il s'agira pour la majorité d'un premier séjour chez nous. Si les Québécois sont moins nombreux que les Canadiens en général à s'arrêter pour prendre des vacances, quelque 75% contre 80% selon une enquête du Canada, ils n'hésiteront pas à faire des sacrifices pour se payer une jolie pause. Près des deux tiers aiment mieux limiter leurs achats ou l'épargne le reste de l'année plutôt que se passer de vacances. Un Québécois sur cinq voyagera à crédit. Les budgets les plus importants sont aussi en hausse, selon Anne Gauthier, porte-parole de CAA Québec. De plus en plus de familles consacrent de 2 000 $ à 5 000 $ pour leurs seules vacances annuelles. Les vacances, c'est sacré, dit-elle. Dans cette catégorie, il s'agit souvent de voyages à l'étranger. La France et l'Italie sont en tête, cela va presque de soi, mais on a eu la surprise de voir le Danemark arriver au 3e rang, remarque Anne Gauthier. La Norvège, la Finlande, les pays nordiques ont vraiment la cote. L'arrivée des transporteurs au rabais comme Wow, qui relie Montréal à Reykjavik, n'y est certainement pas pour étrangères. Note-t-elle, tout comme la multiplication des croisières en Scandinavie, remarque Nathalie Gay, directrice de l'association Ensemble, qui regroupe 850 agences de voyage. Selon l'enquête de CAA, l'Europe attirera 8% des touristes québécois cet été, contre 13% pour les États-Unis, la côte Est et son chapelet de villages en bord de mer en tête. Les parcs nationaux américains sont très populaires, dit Nathalie Gay. Ça va avec le mode des voyages de bien-être où l'on fait du sport, on va au spa, etc. Quand ils voyagent au Canada, les Québécois aiment voir la mer et raffolent plus que tout des provinces maritimes et de la Colombie-Britannique. Très souvent, on profitera des vacances pour visiter des parents et des amis, surtout si l'on séjourne à l'étranger, 33% des voyageurs, et aller à la plage, 34%. Mais un peu plus d'un Québécois sur 10, 12%, restera plutôt à la maison pendant ses vacances afin de profiter d'un moment de répit pour explorer les attraits culturels et naturels situés tout près. Le bonheur n'est pas toujours bien loin. 30%, pour finir, 30%, c'est-à-dire près du tiers des Québécois, limiteront leur déplacement ou leur sortie pour compenser la hausse du prix de l'essence. Un Québécois sur 6 opte pour des vacances hors Québec à cause de la météo. Budget 961 $, c'est le budget prévu pour les familles québécoises pour leur voyage au Québec. Et le nombre de voyages que les Québécois feront cet été, c'est environ 2,1. Et 2 semaines, c'est la durée moyenne des voyages. Daniel Bonneau, dans la presse, nous fait part de ses conseils. Déménager sans s'endetter. Il existe plus d'une façon de vous installer sans gréver votre budget, fait remarquer Béatrice Bernard-Poulain, qui met en pratique ce qu'elle prône dans son blog, où elle livre ses astuces pour consommer de façon responsable. En nous ouvrant les portes de son appartement, elle dévoile ses trucs afin de mieux vivre pour moins. Faire le bonheur des autres. Le déménagement est l'occasion rêvée de se défaire d'objets et de meubles encombrants dont on ne veut plus. En les offrant sur un site de revente, on peut utiliser l'argent pour s'acheter quelque chose que l'on aime vraiment, indique Béatrice Bernard-Poulain. C'est ce qu'elle a fait à d'innombrables reprises, métamorphosant notamment son salon. La bibliothèque, le tapis, le meuble audio-vidéo ont été vendus et le futon a été donné. L'argent amassé a servi à acheter de nouveaux meubles. Cela a un côté écologique, précise-t-elle. Cela me choque de voir des meubles en bon état qui sont jetés. Il faut être à l'affût. La pigiste a elle-même récupéré des objets, repérés par hasard près de poubelles. C'est le cas du grand cadre doré de style classique qui tient la vedette sur un mur de sa cuisine. Elle a enlevé la peinture qui s'y trouvait et a mis à la place une carte du monde où elle indique toutes ses destinations. Elle a aussi ramassé un panier de métal ajouré qui se trouve dorénavant près de son coin de travail. Il avait l'air encore bon, indique la jeune femme, fière de son coup. Donner une deuxième vie. Béatrice Bernard-Poulain donne à ses meubles, à des meubles, le petit quelque chose qui leur manque. Il y a quelques années, elle a doté les portes de son meuble audio-vidéo d'un pourtour argenté pour le faire ressortir. En avril, elle a appliqué par-dessus une couche de couleur bronze pour l'actualiser. Cela a coûté 10 $ et ça ne m'a pris que quelques minutes, dit-elle. Cela fait la différence. Elle a peint aussi en brun foncé son meuble pour ordinateur. N'aimant pas qu'il soit plus bas que la bibliothèque adjacente, elle l'a posé par-dessus le plateau d'une table achetée au même endroit. Du coup, il a obtenu une troisième vie. La blogueuse a accepté les dons de nombreux des membres de sa famille pour meubler sa chambre, donc il faut saisir les occasions. La table de chevet et la commode en bois massif appartenaient à mes grands-parents et ont une valeur sentimentale, dit-elle. Leurs lampes et leurs photos sur le mur ajoutent à l'atmosphère vintage que je voulais créer. Une autre occasion dont elle a su profiter, elle a acheté plus pour 650 $ la carte cadeau d'une valeur de 1 000 $ d'une amie dans un magasin de meubles et a vendu sur Kijiji sa table de cuisine. Cela lui a permis d'en acheter une nouvelle qui lui plaît vraiment. Et ensuite, elle fait preuve de créativité. Béatrice Bernard-Poulain a réalisé elle-même ou avec une amie les œuvres originales de grande dimension qui ornent ses murs. Ce sont juste des lignes ou des formes géométriques, dit-elle humblement. Autre intervention originale, elle a décoré l'arrière de l'armoire qu'elle a ajoutée à côté de la cuisine. Elle y a posé du papier peint, entouré de moulures pour le rehausser. « Je me fais confiance », souligne la jeune femme qui a lancé le guide « Vivez mieux pour moins » en gérant ses dépenses et en faisant son budget, dit-elle, il devient possible d'atteindre ses objectifs. «
Bam, 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 voilà tout. C'est le temps des vacances. Ram, bam, bam, voilà tout. C'est le temps des vacances. C'est le temps des vacances. Nous avons gradué. C'est le temps des vacances. La saison pour semer. Allons sur le sable chaud, tout près de la mer. Près de toi, je suis si bien. Sans toi, je ne peux vraiment rien. C'est le temps des vacances. Partons tous les deux. C'est le temps des romances. Oublie si tu veux. Oui, j'avoue que j'ai eu tort. Redonne-moi tout ton amour. Chérie, je t'aime, je t'aimerai pour toujours.
La vie,
on s'est aimé.
Marie,
ah, je t'ai fait pleurer. Et puis tu m'as quitté. Autrefois, mon cœur ne battra que pour toi. C'est le temps des vacances, la saison des mûres. C'est le temps des romances, comme l'été dernier. Reprenons très vite ensemble. Redonne-moi tout ton amour. Chérie, je t'aime, je t'aimerai pour toujours. Ram, dam, dam, voilà tout. C'est le temps des vacances. Ram, dam, dam, voilà tout. C'est le temps des vacances. Ram, dam, dam, voilà tout.
Un incontournable succès pour le temps des vacances, bien sûr, en cette fin de juin. Début de vacances pour plusieurs citoyens. Pierre Lalonde, 1963, c'est le temps des vacances.
Eh oui. En plein ça. Une pétition, alors là je vais changer de sujet complètement, une pétition pour réclamer la consigne des bouteilles de vin. Quelques 218 millions de bouteilles de vin et spiritueux sont vendues chaque année et seulement 14% du verre placé dans les bacs de recyclage est recyclé, dénoncent les instigateurs d'une pétition réclamant une consigne sur les bouteilles de vin et spiritueux. La dite pétition lancée en décembre dernier est maintenant disponible en ligne sur le site internet de l'Assemblée nationale. La Confédération des syndicats nationaux, la CSN, du syndicat des métallos, la FTQ, et du syndicat canadien de la fonction publique, la SCFP Québec FTQ, militent pour que la Société des alcools du Québec, SAQ, assume ses responsabilités et collecte les bouteilles usagées. Le laisser-faire a duré trop longtemps. Le Québec est une des seules provinces à ne pas avoir de consigne sur les bouteilles de verre. Pourtant, on sait que le système de consigne fonctionne bien. Le taux de recyclage et de récupération des bouteilles de bière approche les 100%. Le gouvernement et tous les partis politiques doivent agir rapidement pour instaurer une consigne, fait valoir Nathalie Arguin, secrétaire général de la Fédération des employés et employés du service public CSN, F-E-E-S-P, CSN. Les organisations proposent que la SAQ prenne en charge la collecte des bouteilles usagées et crédite la valeur des bouteilles vides sur la carte fidélité de la SAQ déjà existante, carte Inspire. L'initiative chapeautée par les trois organisations syndicales est une suite de la campagne VERRE, V-E-R-R-E. La fin du gaspillage, lancée au début du mois de décembre dernier et qui a déjà permis d'amasser environ 10 000 signatures sur le terrain, elle sera disponible en ligne. Ah, ben elle n'est plus disponible, désolé. C'était jusqu'au 9 juin. Mais bon, il a existé une pétition. Maintenant, que va donner le résultat? À suivre. Et je vais continuer avec une petite brève, la route des bières du Saguenay-Lac-Saint-Jean bonifiée. Ça, c'est intéressant quand même pour les routes des vacances. Laura Lévesque, dans Le Quotidien. La route des bières du Saguenay-Lac-Saint-Jean se renouvelle. Le circuit touristique compte maintenant 12 microbrasseries de la région, ainsi qu'une de Tadoussac. La nouvelle mouture de cette route et le nouveau site internet ont été dévoilés mardi à Alma. En 2011, la microbrasserie La Chouappe lançait une première route des bières régionale. À l'époque, les quatre microbrasseries existantes en faisaient partie. Notre seul outil était une carte postale. 7 ans plus tard, 9 autres s'ajoutent. Les gens se demandent si on est en compétition entre microbrasseurs. Une chose est sûre, c'est une force de notre région. C'est un de plus pour le touriste et c'est à l'année. A exprimé Annie Saint-Hilaire, copropriétaire de la microbrasserie du Lac Saint-Jean.
Vous écoutez les voix de service.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elles cousent en lui fumant dans un bien-être su, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin de ses malappris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues, sur un de ces fameux bancs, qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.
On vient d'entendre Romain Didier qui reprenait Les amoureux des bancs publics, tiré de l'album Il chante Brassens, paru en 2005. Bien sûr, une composition, oui, de Georges Brassens.
Le grand Georges Brassens. Eh bien, maintenant, je vais vous entretenir de quelque chose de plus... de moins léger, on va dire. Mais ça a toujours rapport au tourisme. C'est le conflit nord-irlandais raconté aux touristes. C'est Julien Lagache et Pauline Froissart qui signent cet article de l'agence France Presse Belfast. Sur les murs de Belfast West, les graffitis rendent hommage aux disparus et préservent les traces du conflit qui a ensanglanté l'Irlande du Nord. Aujourd'hui, l'histoire est racontée aux touristes par d'anciens prisonniers républicains et loyalistes. Peter Whelan, alors veuillez m'excuser pour la prononciation, je vais vous épeler quand même son prénom et son nom. Peter, P-E-A-D-A-R, Whelan, W-H-E-L-A-N. Peter Whelan, donc, est un de ces guides peu ordinaires. À 60 ans, dont 16 passés derrière les barreaux pour avoir tenté de tuer un policier britannique à la fin des années 70, ce républicain convaincu vit aujourd'hui de ses souvenirs des troubles qui ont éclaté en 1969 et duré 30 ans. Opposant nationaliste majoritairement catholique et partisan de l'union avec la Grande-Bretagne, essentiellement protestant. On parle de troubles, mais c'était la guerre, corrige-t-il en débutant sa visite par l'école catholique Saint-Comgall sur Falls Road, un axe habité majoritairement par des nationalistes et des catholiques. Les murs en briques de la face de la bâtisse, aujourd'hui abandonnée, portent encore les impacts de balles des snipers loyalistes. Falls Road a été le théâtre de nombreux affrontements entre nationalistes et unionistes. L'armée britannique avait installé un poste de surveillance au sommet de la tour Divis, qui borde la route. Officiellement, il s'agissait de protéger les catholiques, explique Peter Whelan, mais pour lui, l'opération visait surtout à contrôler le secteur dans une logique coloniale d'occupation. L'objectif du sexagénaire et de raconter l'histoire nord-irlandaise au prisme du combat républicain, un récit longtemps censuré selon lui. Arrivé dans un jardin du souvenir à la mémoire de militants nationalistes et de combattants de l'armée républicaine irlandaise, IRA, Peter Whelan évoque les volontaires tombés au cours des violences que l'autre camp qualifie plus volontiers de terroristes. Puis il amène son groupe de touristes, une petite dizaine de personnes, dans l'ouest de Falls Road, devant une grande fresque où rayonne le sourire du militant républicain Bobby Sands, mort en cellule en 1981, après une grève de la faim de 66 jours. Pas de regret. Peter Whelan souligne la solidarité qui régnait entre prisonniers républicains. J'avais 19 ans, j'arrivais à peine en prison après 3 jours de torture et de mauvais traitements, se remémore-t-il. Bobby m'a accueilli avec un sac plein de biscuits, de livres, de fruits. Puis il s'arrête au pied du mur de la paix qui sépare depuis 1969 les catholiques de Falls Road des protestants de Shankill Road. De l'autre côté du mur, c'est Noël Large qui dirige la visite. Noël Large. Même âge et même nombre d'années de prison que Peter Whelan, mais lui était dans le camp loyaliste. Deuxième d'une fratrie de 5 garçons, cet homme au visage émacié et aux mains couvertes de tatouages a grandi dans la peur et la méfiance à l'égard des catholiques, raconte-t-il. À 17 ans, il s'engage dans un groupe paramilitaire, l'UFV, Ulster Volunteer Force. Le jeune homme est impliqué dans des meurtres, tentative de meurtre et braquage. Arrêté en 1982, il est jugé et condamné 4 fois à la prison à vie, cumulant 357 années de prison. Il sortira finalement en 1998 grâce à l'accord du Vendredi Saint. C'est ce que j'ai fait. Je recommence. Ce que j'ai fait n'a servi à rien. Ça n'a fait qu'empirer les choses. Juge aujourd'hui ce père et grand-père. Peter Whelan, lui, n'a pas de regrets. Je suis qui je suis, j'étais qui j'étais. Aujourd'hui, ces deux hommes aux trajectoires opposées exercent tous deux, mais chacun de leur côté, leur talent de conteur, en menant les visiteurs dans des quartiers qu'ils connaissent par cœur, au pied du mur de la paix, long de 4 km. Ce mur est le plus important d'Irlande du Nord, qui compte une centaine d'ouvrages du même type, censés être démolis d'ici 2023. Mais Peter Whelan ne les voit pas disparaître de si tôt, estimant que si la guerre est finie, les gens restent inquiets de la possibilité d'un retour des affrontements, même s'ils jugent le processus de paix solide. De son côté, Noël Large estime que si l'Irlande du Nord a trouvé la paix, la réconciliation n'a pas encore eu lieu. Selon lui, il faudra des générations avant que les gens passent à autre chose et arrêtent de penser aux troubles. Quant à l'impact du Brexit sur la paix et l'hypothèse d'un rétablissement d'une frontière entre les deux Irlandes, il souligne que personne ne sait encore quelles seront les conséquences. We'll be right back. L'actualité alimentaire, tendance et consommation. Le gouvernement entreprend des consultations afin d'aider les Canadiens à faire des choix alimentaires sains. La population canadienne est aux prises avec des taux élevés de maladies chroniques. 2 adultes canadiens sur 5 déclarent vivre avec l'une des maladies chroniques les plus fréquentes, qui comprennent les maladies du cœur et les accidents vasculaires cérébraux, AVC, le diabète et le cancer. Certains de ces problèmes de santé chronique commencent même à apparaître chez nos enfants, ce qui est encore plus inquiétant. Le gouvernement du Canada prend des mesures pour aider les Canadiennes et les Canadiens à faire des choix alimentaires sains. Une mauvaise alimentation, surtout si elle est riche en sodium, en sucre ou en gras saturé, constitue l'un des principaux facteurs de risque de maladies comme le cancer, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète de type 2 et les maladies du cœur. Le ministre de la Santé, l'honorable Ginette Petitpas-Taylor, a annoncé aujourd'hui, alors je n'ai pas la date, que Santé Canada lancera des consultations sur un règlement visant l'affichage d'un nouveau symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage des aliments. Cette mesure s'inscrit dans le contexte de la stratégie en matière de saine alimentation. Chaque jour, les Canadiennes et les Canadiens font des centaines de choix alimentaires, souvent en quelques secondes, et le devant de l'emballage est le premier endroit où ils trouvent de l'information. Le symbole affiché sur le devant de l'emballage fournit un indice visuel clair montrant qu'un aliment a une teneur élevée en nutriments préoccupants du point de vue de la santé publique comme le sodium, les sucres ou les gras saturés. Ce symbole complétera le tableau de la valeur nutritive qui figure à l'arrière ou sur le côté de l'emballage des aliments. Santé Canada a lancé aujourd'hui des consultations en vue de recueillir les commentaires des Canadiennes et Canadiens avant de prendre une décision définitive quant au symbole qui devra figurer sur le devant de l'emballage des aliments à forte teneur en nutriments présentant un intérêt public. Le symbole affiché sur le devant de l'emballage constitue un important progrès tangible en vue de l'atteinte des buts de la stratégie en matière de saine alimentation de Santé Canada, qui adopte une approche raisonnable et responsable pour s'attaquer aux maladies chroniques au Canada. Trois faits en bref. Les aliments transformés sont une source importante de sodium, de sucre et de gras saturés dans notre alimentation. Selon des recherches, les Canadiennes et Canadiens consomment trop de ces nutriments. À titre d'exemple, environ 8 Canadiens sur 10 consomment trop de sodium. Ce nombre est encore plus élevé chez les enfants. Près d'un Canadien sur 2 consomme trop de gras saturés. Santé Canada a modifié la réglementation l'an dernier pour mettre à jour le tableau de la valeur nutritive et la liste des ingrédients afin que les Canadiennes et les Canadiens puissent plus facilement les comprendre et les utiliser.
Ton dos parfait comme un désert quand la tempête passe sur nos corps. Un grain de beauté où je m'en vais boire. Moi, je reste là, les yeux ouverts sur un mystère pendant que toi, tu dors. Comme un trésor au fond de la mer. Je suis comme un scaphandre au milieu du désert qui voudrait comprendre avant de manquer d'air. Il est midi moins quart et la femme de ménage est dans le corridor pour briser les mirages. T'es tellement, tellement, tellement belle. Un cadeau de la mort, un envoi du ciel. J'en crois pas mon corps. « Pour moi, t'es une prisonnière en permission, qu'importe le partenaire. Je dois être le vrai porteur à ton père. Un daredevil, Nefertiti, des sensations, c'est toute ta philosophie. D'aller coucher avec un homme taillé. Pour moi, te dis à ta chum, check le goc des lunettes. Je vais te gager un rhum que j'y fixe le squelette. Il est midi moins cinq et la femme de ménage est là pour faire rien que compter les naufrages. T'es tellement, tellement, tellement belle. Un paquebot géant dans chambre à coucher. Je suis l'océan qui veut toucher ton pied. Pense que je l'ai jeté sauvé à vie dans quelque pays, dans une vie antérieure. La fois que je t'ai dit, va pas à Pompéi. C'est quoi d'abord, si c'est pas ça, c'est à cause d'un gars qui te tordu le cœur. Je t'arriverai avant que tu meurs. C'est pas pour mon argent, ni pour ma beauté, ni pour mon talent, tu voulais-tu me tuer. Les midi tapant et la femme de ménage, à cogne en hurlant, je veux changer de personnage. T'es tellement, tellement, tellement belle. Je vais bénir la rue, je vais brûler l'hôtel.
Tiré de l'album du même nom, Tu m'aimes-tu, Richard Desjardins, un grand classique de 1990.
Magnifique. Aléa de la météo. Les vignerons pourront stocker plus de vin. Bon, ça ne concerne pas les vignerons québécois, mais ça va venir un jour, c'est certain. C'est de l'agence France Presse Bordeaux. Les réserves de vin, qu'on appelle aussi volume complémentaire individuel ou VCI, autorisés lors des années fastes et servant à compenser des récoltes faibles les années suivantes, vont être augmentés comme le demandaient les viticulteurs girondins, ont annoncé jeudi l'INAO et la préfecture de Gironde. Cette mesure, qui permettra de pallier aux variations de récoltes, était réclamée par les vignerons pour faire face aux aléas climatiques après le gel l'année dernière et la grêle qui a fortement impacté de nombreux domaines viticoles le mois dernier. Ces stocks étaient limités par la réglementation à 10% de la récolte par an, soit 30% maximum de réserves constituables sur 3 ans. Ainsi, si une propriété récolte 50 hectolitres par hectare, elle peut chaque année mettre de côté 5 hectolitres. Sur 3 ans, cela représente 15 hectolitres de réserve. Les viticulteurs pourront dorénavant stocker 20% de leur récolte chaque année pour atteindre au maximum la moitié d'une récolte sur 3 ans. Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, Didier Lallemand, et le président du comité régional de l'Institut national d'origine et de qualité, l'INAO, Aquitaine, Bernard Fargès, ont salué ce changement qui doit toutefois être entériné par des appellations. Cette décision permettra de renforcer la résilience des exploitations face aux aléas climatiques et à leur récurrence. en jouant un rôle équivalent à celui d'une assurance récolte, ont-ils estimé dans un communiqué commun. Il permet de pallier les variations de vendanges en tirant profit des années exceptionnelles où rendement et qualité se conjuguent au bénéfice de celles victimes de faibles rendements, notamment suite à des accidents climatiques, ont-ils poursuivi. Le VCI, pour les vins liquoreux, qui n'existaient pas jusque-là, sera expérimenté dans les appellations Montbazillac en Dordogne, Sauterne et Barsac en Gironde. Ces décisions du Comité national de l'INAO devront s'accompagner de modifications des décrets avant de pouvoir être appliquées, a précisé le communiqué. Lors du dernier week-end de mai, de violents orages de grêle ont dévasté près de 7100 hectares de vignes dans le Bordelais et plus de 10 000 hectares dans le bassin Charente-Cognac. En avril 2017, le gel avait touché quelques 60 000 hectares de vignes en Gironde, réduisant de 40% la récolte. Sur l'ensemble du territoire français, les volumes ont baissé de 19% en raison des aléas climatiques. Je change de sujet. Les règles du jeu en termes de retard ou d'annulation de vol. Stéphanie Gramont signe cet article dans la presse. Les règles, à quoi les passagers ont-ils droit lors d'un retard ou d'une annulation de vol? Excusez-moi. Les règles canadiennes. Le Canada ne prévoit aucune indemnisation minimale, mais cela changera avec l'entrée en vigueur de la charte des voyageurs. Ceci dit, la Convention de Montréal permet d'aller chercher jusqu'à 8 000 $ en compensation. Toutefois, les passagers doivent alors prouver qu'ils ont subi des préjudices, perte de salaire, perte de vacances, frais encourus pour l'hôtel, la nourriture, le taxi, etc. Mais pour faire valoir leurs droits, ils doivent aller à la cour des petites créances. Les règles européennes. L'Union européenne, l'UE, impose une série d'exigences aux transporteurs aériens dont les vols sont annulés ou retardés. Lorsque le vol est en retard de 2 à 4 heures, les transporteurs doivent fournir aux passagers des renseignements sur le retard, des victuailles et de l'hébergement. Pour les retards de plus de 5 heures, ils doivent aussi offrir le remboursement de la portion inutilisée du billet et un nouvel itinéraire. En outre, les transporteurs doivent verser une indemnité financière qui varie entre 250 €, l'équivalent de 380 $, et 600 €, 910 $, selon la distance du vol et la durée du retard, 3 à 4 heures. Ces règles s'appliquent aux transporteurs européens sur les vols à l'intérieur de l'Union européenne et sur les vols en partance et à destination de l'Union européenne. Les règles s'appliquent aussi aux transporteurs étrangers sur les vols en partance de l'Union européenne. Exemple, Paris-Montréal, mais pas l'inverse, Montréal-Paris. Les règles américaines. Les États-Unis n'imposent aucune indemnité minimale pour les retards et annulations de vols. Je change de sujet. Un petit journal de bord. Alors, pour un aller simple, taxes incluses entre Montréal-Trudeau et la Guadeloupe ou la Martinique avec Norwegian Air, dès le 29 octobre, le transporteur offrira 3 vols hebdomadaires entre Montréal et l'aéroport guadeloupéen de Pointe-à-Pitre. Dès le 1er novembre, 3 vols par semaine seront offerts en direction de la Martinique. C'est pas mal, c'est Stéphanie Morin qui disait ça. Ensuite, l'assiette d'abord. Oubliez les arts, la culture ou la beauté de la culture, ou la beauté, pardon, je recommence. Oubliez les arts, la culture ou la beauté de la nature. La cuisine locale est désormais le principal facteur qui guide les milléniaux dans le choix de leur destination de vacances. Selon un sondage mené auprès de 9 000 personnes dans 29 pays et publié par Hôtel.com, 75% des répondants estiment qu'il est plus important de découvrir des spécialités locales que de visiter des lieux importants, 69%, ou d'explorer la nature, 26%. C'est aussi vrai au Québec, où 71% des répondants accordent plus d'importance aux plats qu'ils dégusteront qu'aux lieux qu'ils visiteront. Les trois destinations gourmandes préférées de ces jeunes voyageurs, Paris, Tokyo et Rome.
M'appelle à prendre le bord, m'exiler dans ce coin de pays où c'est beau d'être nulle part, admirer la beauté du silence qui s'effrite sous mes pas, les arbres qui bougent en cadence font valser mes tracas. Je retournerai me perdre en forêt libre comme l'air, danser comme le vin, envoyer promener les heures, savourer le temps et tout laisser derrière. Les pieds dans le ruisseau, ma tête vogue, je suis le flot. Mes chagrins.
On vient d'entendre la pièce « Prendre le Nord », Marjolaine Maurras sur Canal M.
Et je vais terminer notre émission avec une petite brève. Le retour de la plage au parc Frontenac. Fermée depuis près de 10 ans, la plage du parc national de Frontenac rouvrira juste à temps pour accueillir les plaisanciers pendant le long week-end de la Saint-Jean. Donc c'est déjà fait. La CEPAC y a fait quelques aménagements. Il y a maintenant des modules de jeux pour enfants, des barbecues au charbon, un coin lecture et un terrain de volleyball. Le parc de Frontenac est l'un des 5 du réseau de la CEPAC où les chiens sont autorisés en raison d'un projet pilote lancé l'an dernier. Et voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission. Merci d'avoir été à l'écoute. Et bien sûr, merci à Jean-Sébastien de la Liberté, à la technique, à la mise en onde, au choix musical et j'en passe. Merci beaucoup. Et au micro, c'était Jean-Charles Algan. Nous espérons vous retrouver la semaine prochaine. Au plaisir.